Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que je suis assise par terre dans mon salon aujourd'hui. C'est parce que le sujet du jour est la parentalité et que j'ai des obligations de parents à remplir en même temps que je fais cette vidéo. That's the reason. Ceux qui vont écouter sur Apple Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast, vous n'allez pas me voir assise par terre, mais je vais essayer de vous décrire mes activités en même temps que je parle. Posons le téléphone pour commencer. Ça fait un bout. Je vais parler de parentalité sur le podcast, sur Instagram ou sur la newsletter. J'espère que vous êtes abonnés. Pourtant, énormément de choses ont changé de ce côté-là pour moi. Changé en termes de lifestyle parce que maintenant, je suis parent à plein temps. Je n'ai plus d'aide. J'ai plus de nounou. I'm very full-time, a full-time parent. Et en même temps, je suis a full-time content creator. Je suis a full-time accompagnatrice de femmes. Et j'ai repris mes études l'année dernière, à 38 ans, l'année dernière, oui, à la Harvard Business School. Et j'en ai encore pour quelques mois. Ce n'est pas terminé. Là, je suis dans mon troisième trimestre. Il y a un quatrième que je dois faire encore. Avant de démarrer tout ça, qu'est-ce que je fais par terre? Je dois ranger. Je pense que généralement, quand vous regardez le podcast sur YouTube, vous voyez cet autre côté que je vous montre rapidement. Cet autre côté de mon salon, c'est là-bas que je fais le podcast généralement. Donc là, je suis assise là et je dois ranger les tiroirs de mon meuble de bibliothèque parce qu'il y a des affaires de caramel dedans. Et j'ajuste la caméra là. Ok, là je pense que c'est bon. Et je dois ranger ça parce que ça fait désordre et que je n'en peux plus et que voilà. Pourquoi est-ce que je fais cet épisode-ci en rangeant les affaires de caramel? Parce que je me suis aperçue que c'est de plus en plus difficile pour moi de créer du contenu parce que j'attends toujours une erreur qu'on fait très souvent. Hein, j'attends toujours que les choses soient hyper aligné pour que je puisse me poser là-bas, comme je vous ai montré, pour faire mes vidéos. Mais en fait, la vie n'est pas hyper alignée. C'est bien beau de me voir toute belle, toute apprêtée, assise, en train de parler. But this is not my whole life. I have things to do et je voudrais être capable, pardon, si j'ai quelque chose à dire, de pouvoir le dire tout en faisant ce que j'ai à faire, en fait. Donc, voilà. Parentalité, où est-ce qu'on en est? Déjà, qu'est-ce qui a inspiré ce sujet aujourd'hui? J'ai terminé récemment le livre My Life in Full. Ici, il y a des livres aussi. C'est une espèce de placard, une espèce de... Voilà, il y a des livres aussi ici. Et les livres que je termine, quand je termine un livre, je le mets là pour que mon compagnon puisse le ranger, parce que c'est lui qui range les livres, il est très très à cheval dessus. Donc voilà le livre en question dont je parle, Indra Nooyi, qui a été à la tête de PepsiCo pendant, je pense, 12 ans. Elle a été CEO de PepsiCo pendant 12 ans. Et je pense que vous avez vu, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, elle a fait un buzz at some point. Elle avait fait une intervention dans une conférence. Et il y avait eu un short, cette intervention-là, où elle parlait du fait que il est difficile pour les femmes d'allier travail et parentalité parce que à l'heure où ton biological clock commence à réclamer la procréation, tu es prise par le travail. Donc, parfois, on rate ce coche-là et on se retrouve à faire des enfants très tard. Ou alors, quand on fait des enfants, il faut choisir entre le travail et s'occuper des enfants parce qu'on ne peut pas toujours allier les deux. Il faut pouvoir perdre quelque part. Parfois, on perd au niveau du travail. Parfois, on perd au niveau de la parentalité. On est absent pour ses enfants. Et donc, ça m'a beaucoup parlé. Donc, quand je suis allée à Kuala Lumpur en décembre dernier, j'ai trouvé ce livre-là en librairie et j'ai sauté dessus. Je dirai à la fin si je le recommande ou pas. Okay? En tout cas, le livre m'a permis de revenir sur mon expérience de parentalité et je vais en parler tout en blindant, je vais dire ça comme ça, mon expérience à ce que j'ai lu. Ça m'a fait revenir sur mon expérience de parentalité, le cheminement et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, on parlera tant de mon cheminement que de ce livre. Commençons par travail et parentalité. Déjà au départ, comme beaucoup le savent, ceux qui sont là depuis super longtemps, vous le savez déjà, je ne voulais pas être parent. Je n'avais jamais prévu d'avoir des enfants. Je n'étais pas Ce n'était pas un plan. Ce n'était pas un plan de vie. Je ne destinais pas ma vie à la vie de couple avec un homme et whatever, whatever. It was not what I wanted for myself. I wanted to be alone, read my books and share what I learned in these books with people as I always do and as I'm doing now. And then I met someone. J'ai rencontré mon compagnon. Est-ce que je veux dire que ça a matché immédiatement? Au niveau des cerveaux, oui, ça a matché immédiatement. On est tombé amoureux du cerveau l'un de l'autre. On avait de très belles discussions. Et 6 mois après, une amitié assez serrée, on a décidé de se mettre ensemble. It was not easy. Je me dirais que je dois parler de parentalité, but what am I doing talking about love relationship? En tout cas. Donc, je disais, ça n'a pas été facile parce que quelques temps avant, j'avais été en couple, je vais dire ça comme ça en fait. Tu me diras, j'étais en couple, c'est moi qui le dis comme ça. Mais j'avais eu quelque chose avec quelqu'un qui avait été un ami pendant presque 5 ans. Et le fait que l'affaire ait mal tourné a fait en sorte qu'on perde notre amitié, qui était une amitié à laquelle je tenais beaucoup. Et donc c'était. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer dans cette relation parce que je me disais, si je perds l'amitié avec lui, ce sera très triste because I don't want to lose his friendship. Si on se met ensemble et que ça ne marche pas, ça va être chaud. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un meeting avant de se mettre ensemble. Là, je sors tous les livres qu'elle va plus utiliser. Je vois ce qui, pour ceux qui regardent, hein, je vois ce qui, quels sont les livres qui sont là, quels sont les livres qu'elle n'utilise plus, qui sont déjà dépassés, les livres de coloriage qui sont déjà finis. Ça, je vois qu'on a un livre là qu'on n'a pas encore ouvert même. Donc, je disais, on a eu un meeting pour savoir, pour avoir des termes clairs, quels étaient les termes, même si ça ne marche pas entre nous, on doit s'arranger pour que notre amitié persiste. Et c'est un terme qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, on s'est mis ensemble. J'ai toute l'histoire sur le podcast en version audio parce que la vidéo est venue plus tard. Je mettrai le lien en description. On s'est mis ensemble et on a eu notre fille très vite. En fait, les premiers sentiments quand j'ai été enceinte, c'était vraiment la dépression parce que je ne voulais pas avoir d'enfant. C'était vraiment la dépression, c'était très difficile, mais je ne veux pas revenir dessus aujourd'hui. Il y a énormément de contenu sur mon blog, medigression.com, et sur le podcast à ce sujet. Et ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le cheminement de la parentalité. Et à ce sentiment-là, comme on parle de parentalité et de travail, j'aimerais parler de ce sentiment qui a été très présent pour moi quand j'ai eu Caramel. Le sentiment, c'était quoi? C'était que, à mon plus grand étonnement, quand j'ai eu ma fille, je n'étais pas dans un état où j'avais envie d'être parent, mais je savais clairement que cet enfant ne manquerait de rien. Je savais clairement que j'allais faire tout ce qui était à mon pouvoir pour que cet enfant ait une belle vie. En fait, je disais, je ne veux pas que ma vie, qui était une vie vraiment... J'ai eu une enfance très lourde sur le plan émotionnel et je ne veux pas que ma vie soit l'introduction à la sienne. Donc, je disais que je ne veux pas reproduire la vie que j'ai eue. Je ne veux pas qu'elle commence sur un blank state. Et c'était vraiment quelque chose que j'étais très à cheval dessus. Donc, quand elle est venue, je me demandais est-ce que je vais l'aimer ou pas. Étant donné la situation, je ne voulais pas d'enfant, est-ce que je pourrais l'aimer? Est-ce que je pourrais vraiment être, sur le plan émotionnel, ce qu'un parent doit être? Et quand j'ai accouché, la première chose que je me suis dit, c'est maintenant, je peux mourir. Parce que j'ai eu une grossesse très difficile. Et on était toutes les deux sur la ligne, tu sais, la fine ligne. Et quand elle est sortie, je me suis dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. She's fine now, I can die. Et c'était l'introduction d'une aventure. Quand j'ai eu ma fille, je n'ai pas eu le... Tu sais, on te dit, la fibre maternelle te vient immédiatement. Non. Cette affaire où on te dit, ouais, tu vas l'aimer dès que tu vas la voir, tu voudras, tout va changer. Est-ce qu'on me disait, oui, tu vas mal maintenant, mais tu verras, tout va changer quand elle sera là? Non. Je n'ai pas eu la fibre maternelle dès que j'ai eu ma fille, non. Cette histoire de oui, tu vas l'aimer dès que tu vas la voir. Non, it was someone and I was like, I don't know that person. Who is this? C'est mon enfant. Ça signifie que maintenant je suis en charge d'un enfant. Comment ça va se passer? What is this? C'était plus ça, ma façon de penser plutôt que oh je l'aime, je veux juste l'avaler tellement elle est magnifique. J'ai pas eu ça. J'ai appris à la connaître et je suis bon, tu me diras que j'ai pas eu d'autres expériences, mais c'était une très belle expérience parce que aujourd'hui je peux dire que je ne l'aime pas seulement parce qu'elle est mon enfant, je l'aime pour qui elle est. She's someone very amazing. She's an amazing person. She's so fun. She's so fun, she's so loving, she's so... Tu me diras, oui, mais tout le monde s'aime son enfant. C'est vrai, mais bon, je dis ça du mien aussi. Donc, quand on est rentré à la maison, à l'époque, je travaillais de la maison à mi-temps, et son père a toujours travaillé de la maison, donc on a toujours été là pour elle, no matter what, à la maison. Et il y a ce sentiment-là, quand j'ai commencé à m'occuper d'elle, j'ai commencé à me demander, est-ce qu'il faut vraiment que je continue de travailler? Je voulais juste me consacrer à son éducation. Et je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir une chose pareille, étant donné le début un peu chaotique, en fait, de mon expérience de parentalité. Un enfant qui n'avait été planifié, des traumas qui sont revenus, une peur bleue de ne pas pouvoir l'aimer, un refus catégorique d'avoir un enfant. En fait, je me réveillais la nuit, je me disais, oh God, il y a quelqu'un dans mon corps. Est-ce que je peux pas me réveiller le matin et puis je suis plus enceinte? Est-ce que ça peut arriver? But, à ce moment-là, je me suis dit, personne au monde ne pourra mieux s'occuper d'elle que moi. Et je veux tout lâcher just to be there for her. And the funny thing is, je n'ai jamais été quelqu'un de carriériste. Je n'ai jamais été, je veux grimper les échelles, l'échelon hiérarchique et devenir la directrice de l'endroit où je travaille. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressée. Est-ce que vous aussi, vos enfants sont fans de Pat Patrouille? Because, yeah. Ça ne m'a jamais intéressée. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis une bosseuse. Je suis une bosseuse, je suis attachée aux initiatives qui permettent à l'humain de se développer et de fleurir. Et c'est ce que j'ai toujours fait, que ce soit sur le plan personnel, c'est-à-dire mes initiatives personnelles, ou sur le plan du travail. Je n'ai travaillé que pour des organisations internationales qui poussaient l'humain, tu me diras, oui, le citoyen à revendiquer ses droits, qui accompagnait la société civile. C'était vraiment mon univers, c'est-à-dire tout ce qui peut aider le citoyen, l'humain, à évoluer en tant qu'individu. Donc, ça, je savais que je n'étais pas carriériste, mais j'étais une bosseuse et j'adore travailler. J'adore, c'est-à-dire que j'adore ça. Donc, que je puisse me dire, parce que j'ai eu un enfant, « I want to drop everything and be with her », c'était quelque chose de très perturbant. Because I was like, this is not me. What is happening? This is so not me. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à des amis qui étaient plus âgés, qui avaient des enfants plus âgés. Et elles m'ont donné un conseil. Mon conseil, vous savez que je n'aime pas le mot conseil. Elles m'ont donné une recommandation, je vais dire ça comme ça, qu'aujourd'hui je donne aux jeunes mamans, jeunes pas en âge, mais qui ont leur premier enfant. C'est ne fais pas ça. C'est un sentiment qui est normal parce que tu te dis que l'enfant vient de... Tu te dis consciemment ou inconsciemment que l'enfant vient de toi et tu seras la personne la plus habilitée à répondre à ses besoins. En parenthèse, je tombe là-dessus. Et this is how my daughter communicates. Quand elle veut passer un message, quand elle veut exprimer son amour ou quand elle veut exprimer son mécontentement, elle fait des dessins. Donc là, c'est nous. Je pense que vous me voyez là avec mes lunettes. This is me. And this is her. On a la même taille. I don't know how, but voilà. This is me and this is her. Elle m'a fait un dessin hier où elle me disait qu'elle était très fâchée contre moi. Et c'est comme ça qu'elle exprime son amour, son mécontentement. Tout ce qu'elle ressent, elle écrit et elle le partage. Et c'est quelque chose qu'on chérit vraiment parce qu'on veut qu'elle puisse s'exprimer de la manière qui lui parle le mieux. Parenthèse fermée. Donc je disais, et ces dessins-là, je les garde chèrement parce que dans 30 ans, je vais lui ressentir tout ça. Donc, je disais que il ne faut pas le faire parce que ça peut être le début de la fin. C'est-à-dire que quand tu viens d'avoir ton enfant, tu es dans un état où tu peux conquérir le monde pour l'enfant. Tu t'oublies, tu n'existes plus. Tu n'existes vraiment plus. Sauf que quand tu rentres dans ta routine de parent, tu commences à te rendre compte que tu n'existes plus et c'est très difficile à vivre. Et si tu perds ces choses-là qui te définissent, qui te permettent de vivre ta vie en tant qu'individu, it will be very difficult for you, pardon, au moment du postpartum. Si j'avais lâché le travail à ce moment-là, je pense que je n'aurais pas tenu. Parce que quand les difficultés de la parentalité sont arrivées de plein fouet, ça a été très dur pour moi. C'est-à-dire, pour une personne qui avait toujours vécu seule et qui s'était toujours destinée à une vie de solitude, ça, c'était déjà difficile d'être. Je passais de 1 à 3 en très peu de temps. Parce qu'on a une autre fille très, 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 très vite. Vraiment très vite. Je passais de 1 à 3 en très peu de temps. Et de ce 1 à 3-là, il y avait une des personnes qui me demandait de m'oublier pour pouvoir être là pour elle. C'était ma fille. And that one was very difficult. Sans compter les traumas qui accompagnaient la chose. Les traumas de l'enfance qui remontaient. Les traumas de relations toxiques que j'avais ramenées dans une relation qui était super saine. Et donc, il fallait gérer la relation. Il fallait gérer mes traumas. Il fallait que je puisse me guérir de tout ça. Tout en accompagnant un enfant pour ne pas lui transmettre ces traumas-là. Tout en étant une compagne. It was difficult. Et on a juste l'impression de disparaître. Et cette phrase que j'avais dite un jour, je me manque. Je me manque énormément. Et ce qui a pu me sortir de ça, c'était le travail. Parce que, comme j'ai dit, j'adore travailler et me voir avoir des résultats me faisait comprendre que je ne suis pas finie, quoi. Donc, est-ce que je recommanderais à quelqu'un de... Après, chacun a son expérience, hein. Mais je pense que si on est une bonne travailleuse, se dire qu'on arrête de travailler pour s'occuper de son enfant, c'est un sentiment normal, naturel, mais je ne recommande pas du tout. Don't do it if you can not do it. Don't do it. Ensuite, j'ai repris le travail. Moi, je l'ai toujours continué, je n'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, non. Il y a un an ou deux, je ne sais plus. Je ne suis pas bonne avec les dates. Je suis horriblissime avec les dates. Il y a quelques temps avant de venir m'installer à Cotonou, je me suis installée à Cotonou en 2025. Je pense que je me suis installée à Cotonou en juillet 2023. Je suis partie de Dakar en juillet 2023. Et à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai ressenti, après vraiment un très beau parcours, parce qu'après ma fille, j'ai encore changé de domaine. Pas vraiment changer de domaine. J'étais dans le domaine de la formation. J'étais en charge de... comment tu appelles ça? Oh, comment ça ne me vient pas? J'étais en charge du programme Civic Leadership pour le Young Leader Initiative, YALI, Young African Leader Initiative, l'initiative d'Obama, là, le YALI. Donc, j'étais en charge de Civic Leadership pour l'Afrique. Le volet, parce qu'il y avait deux volets, il y avait le volet en ligne et le volet en présentiel. Et moi, je gérais la formation en ligne. Et donc, ça se passait très bien. Après, je suis partie travailler dans le monde de la philanthropie, toujours pour continuer de empower les gens sur tout ce qui était civic leadership. J'étais sur une très bonne, très bonne lancée, très bon boulot. Franchement, le salaire était vraiment juteux. It was something very beautiful. And then I felt like je n'étais plus alignée. I wanted to be with my daughter. Je voulais lui accorder du temps. Je voulais être là pour elle. Elle grandissait. Et c'est vrai que ça plaignait aussi beaucoup du fait que j'étais en mission tout le temps, que je n'étais pas souvent là. And je ne voulais juste plus vivre comme ça. Je voulais être là pour elle. C'était bien joli de travailler. Mais je voulais trouver une manière d'allier le travail à ma présence. Ce que j'ai fait quand je suis venue à Cotonou, j'ai cessé de travailler. Et puis, je suis venue à Cotonou et je me suis installée ici. And I was kind of a full-time mom. J'étais a full-time mom tout en travaillant sur mes projets d'accompagnement et tout ce qui allait avec. And ça m'a... Lire ce livre-ci m'a fait vraiment revenir sur... Lire ce livre de Indra Nooyi, intitulé « My life in full, work, family and our future ». C'est vraiment curieux que c'est à 19 minutes de l'enregistrement que je donne le titre. Anyway, « My life in full, work, family and our future ». Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai repensé à ce moment parce que dans le livre, à un moment donné, elle parle de... C'est vraiment une dame qui a eu un parcours professionnel extraordinaire. se retrouver à la tête de PepsiCo, qui est une des plus grandes entreprises mondiales. It's something very big. Elle a eu un parcours extraordinaire. Et c'était intéressant déjà de voir son parcours, d'où elle est partie pour là où elle est arrivée. Mais aussi de voir les challenges au niveau de la parentalité qu'elle a eue. C'est-à-dire, elle a parlé du problème de la garde d'enfants. Le fait que trouver quelqu'un de confiance à qui tu peux dire ton enfant, c'est difficile, surtout quand tu travailles, quand tu as des heures de boulot de dingue. Parce que c'est vraiment ce qu'elle a, des heures de boulot de dingue. Du moins, ce qu'elle avait, parce qu'elle ne travaille plus. Du moins, elle travaille plus chez PepsiCo. Des heures de boulot de dingue. Et c'était intéressant de voir comment elle est indienne à la base. Comment le système indien est assez proche du système africain dans la mesure où on se repose sur la famille pour garder les enfants. Les nounous, ça commence à être populaire, mais à la base, c'était une petite sœur qui venait à la maison, une cousine, ta maman qui travaillait plus, qui s'occupait des enfants. Et c'est vraiment sur ce système-là qu'elle s'est reposée pour la garde de ses filles, pour pouvoir continuer à travailler. And it was interesting de voir comment une femme qui est à ce niveau a ces problèmes qui sont communs. Parce qu'on se dit souvent que c'est des gens qui sont intouchables, qui sont particuliers, qui sont ce que tu veux, et qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. Donc, ça m'a fait repenser à ça, ça m'a fait repenser à ma décision d'être là. Parce que oui, tu as une nounou, oui. Et là, ce que je dis, ce n'est vraiment en opposition à rien. Je ne suis pas en train de critiquer la façon de faire de qui que ce soit. Je parle de mon expérience. So, I was like, j'ai des nounous, c'est vrai, mais je vais être là pour mon enfant. C'est le moment. Je ne sais pas, je ne suis pas le genre de personne qui planifie sur 10 ans. Je me disais, là, en ce moment, c'est ce que je veux. Donc, je vais tout faire pour que ça se fasse. Et puis, si un jour je passe à autre chose, ben, je passerai à autre chose. Je l'ai toujours dit, je me donne le droit de changer d'avis à tout moment. Donc là, j'avais une nounou quand même, mais je travaillais de la maison, j'étais là à 100% pour ma fille. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir que la nounou était utile, mais ma fille la voyait comme un obstacle à notre relation à toutes les deux. C'est-à-dire que le fait que la nounou s'occupe d'elle, passe du temps avec elle et tout. À son point, je voyais que c'était. Elle adorait sa nounou. Hein. Ouh là là, elles avaient une très belle relation. Mais alors, une belle relation. Mais, par exemple, quand on a voyagé en décembre dernier, elle m'a dit, je suis contente que la nounou ne soit pas là et que ce soit toi qui t'occupes de moi. C'est pas tout le monde qui peut avoir le privilège de se dire, je peux trouver le moyen d'allier le travail que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire avec le fait d'être là pour mon enfant à 100%. Donc, quand on est rentré de voyage en décembre, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je peux être plus là pour elle. J'ai réaménagé mes heures de travail. C'était pas facile parce qu'il y a les cours aussi en plus du travail. J'ai réaménagé tout ça. It was not the easiest thing to do, but I did it. Et quand la nounou est partie, il y a ça fait 1 ou 2 mois qu'elle est partie, ma fille m'a dit, je veux pas d'autre nounou. Elle m'a dit, j'ai aimé cette nounou-là, je l'ai vraiment aimée, mais je pense que pour le moment, je ne veux pas d'autre nounou. Et dans mon modèle de parentalité, je suis assez à l'écoute de ce que l'enfant dit et l'enfant veut. Parce que, vous me direz, c'est un inverse trauma reaction dans la mesure où je ne me suis pas sentie vraiment écoutée et considérée quand j'étais enfant. Et je sais le mal que ça m'a fait sur le plan émotionnel et ce que ça a créé comme trauma dans la vie adolescente et adulte. C'est ce truc où tu penses que I don't matter, ce que j'ai à dire n'a pas de sens, n'a pas d'importance. Je dois me fier juste à ce que les autres veulent et suivre ce qu'ils veulent et le monde ira bien. Je peux vous dire que ça fait de vrais dégâts dans les relations amoureuses, de faire totale abstraction de soi comme ça et de se dire c'est l'autre qui compte, moi c'est pas si grave. Donc je ne veux pas que ma fille vive ça. On dit que tout parent traumatise ses enfants, elle sera traumatisée d'une façon ou d'une autre, mais je ne veux pas qu'elle soit traumatisée de cette façon-là. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, d'accord, it's fine, she will not have another nanny. Ça signifie qu'il faut que je réaménage ma vie, mais complètement. Parce que le fait d'avoir la nounou faisait en sorte que je pouvais quand même travailler le soir, l'après-midi et tout et tout. Est-ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que son père n'est pas impliqué? Non, parce que lui, il a toujours travaillé de la maison. Il travaille de la maison, ça n'a jamais changé. Il est très impliqué, mais là, je parle de ma relation avec ma fille, parce qu'on a chaque parent, on peut être deux parents du même enfant, mais les relations qu'on a avec l'enfant sont différentes. Donc là, je parle de ma relation à moi et de ma perception à moi de comment est-ce que je dois encadrer ma fille. This thing, do I really need for her to have this? C'est un livre sur les dinosaures, un livre de découpage et tout ça. Mais ça peut l'enjailler, donc je vais quand même le garder. Donc je disais, voilà, donc je me suis dit, ok, elle ne veut pas de nounou, je vais réaménager mes heures de travail pour pouvoir être avec elle tout le temps. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que à 14h, je vais la prendre à l'école à 14h, dans 30 minutes d'ailleurs, à 14h, j'arrête tout. À 14h, I'm off work. Donc je m'arrange à faire tout ce que j'ai à faire avant 14h pour pouvoir être disponible à 14h. Et la vérité, c'est que ça, c'est un hack que je vais vous donner quand vous êtes parents. Souvent, on pense que pour pouvoir faire les choses comme il faut les faire, il faut attendre que l'enfant soit couché ou que l'enfant ne soit pas là ou whatever, and then on peut le faire calmement. La vérité, c'est que on prend sur son temps de repos pour faire ce genre de choses et c'est pas une bonne chose. Non. Par exemple, dans mon réaménagement de mon temps, je ne cuisine plus que deux fois par semaine et je ne cuisine que l'après-midi. Je ne cuisine que l'après-midi où elle n'a pas d'activité. Pourquoi? Parce que ça me permet d'allier le temps que je passe avec elle à une activité utile pour la maison. Par exemple, hier, j'ai cuisiné hier, elle était avec moi toute la journée, pendant tout ce temps, à jouer dans la cuisine, jouer avec des fruits, on regardait en même temps une émission sur YouTube. C'était du temps passé avec elle tout en faisant quelque chose d'utile. Ne vous dites pas seulement que non, c'est d'être fait quand l'enfant n'est pas là, sinon on n'a pas de temps de repos. Mon temps de repos est important. C'est mon temps de garde, c'est sur mon temps de garde que je fais certaines tâches comme celle-ci. Si je ne la termine pas, je la terminerai avec quelqu'un, qu'elle rentrera de l'école, and then it's fine. Pour revenir à parentalité et travail, c'est quelque chose d'assez particulier parce que we miss a lot of things because of work, but we need to work to take care of our children. Et je trouve que c'est assez unfair, surtout dans des réalités où moi, par exemple, j'ai pu mettre à mon compte, c'est un privilège de pouvoir décider de mes heures de travail, de pouvoir décider de comment est-ce que je gère la chose, de pouvoir décider, aujourd'hui, je peux décider de retourner travailler si j'en ai envie dans un bureau. Ben, that won't be difficult. Maybe quand elle sera plus indépendante et si j'en ai, si je ressens le besoin, mais je ne pense pas que ça se fera. Je pense que là, c'est bon. Le monde corporate n'a pas été a été bon avec moi pendant un moment, mais après les drames de sexual harassment et tout ça, j'en ai parlé sur le podcast d'ailleurs, je mettrai le lien en description. I'm not sure that I want to go back there. These people are not there for you, they are there for themselves. Et c'est pas forcément un environnement où je veux évoluer. Donc, c'est vraiment un privilège parce que être une maman, si on regarde objectivement, on va au travail, être un parent, on va au travail, disons, on part de la maison à 7 heures et on est, si on compte les bouchons et tout, on est rentré à 19h30. Le seul moment qu'on a avec les enfants, c'est le moment du dîner. And then, tout le monde va se coucher. C'est-à-dire que tu as un max de 2-3 heures avec tes enfants par jour. Et c'est difficile de se dire que tu manques les grands instants et c'est les différentes nounous qui se succèdent, qui voient les premiers pas, qui voient les premiers repas, qui entendent les premiers mots, qui consolent les premiers chagrins. It's not you. C'est-à-dire que tu fais un enfant, mais pour pouvoir lui assurer un certain train de vie et pour pouvoir t'accomplir en tant qu'individu, parce que le travail, c'est pas seulement pour l'argent. Beaucoup de gens travaillent parce que c'est comme ça qu'ils se réalisent en tant qu'individu. Et c'est comme ça que je conçois le travail d'ailleurs. Donc tu fais des enfants, mais tu dois être loin d'eux tout le temps pour pouvoir être là pour eux. Mais tu seras là pour eux d'une manière différente de celle dont ils ont réellement besoin. Parce qu'à la fin de la journée, ils ont plus besoin de présence que d'argent. Sauf que sans argent, comment est-ce qu'on s'en sort aujourd'hui? Vous avez vu les prix comment tu appelles ça, des frais de scolarité aujourd'hui. Si tu veux une bonne école, mais mec, tu es mort. Tu vas casquer. Et pour casquer comme ça, il te faut de l'argent. Et c'est exactement ce qu'elle disait dans ce livre-ci, quand elle disait que pour pouvoir avoir une vie décente pour elle et sa famille, bon, tu me diras, eux quand même, elle ne dira pas qu'elle était dans le lot des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement, because that would be a lie. She had a lot of money. Mais pour pouvoir s'assurer un train de vie, ce lot of money, c'était tant pour elle que pouvoir offrir un train de vie particulier à ses enfants, tu vois. Et pour pouvoir assurer ce train de vie-là, elle a eu deux filles qui ont environ 10 ans d'écart. Et la deuxième est née, qu'elle était déjà dans des sphères très élevées sur le plan professionnel. Et donc, sa fille passait beaucoup de temps à son bureau. Sa fille passait beaucoup de temps à son bureau pour pouvoir faire ses devoirs, passer du temps avec sa maman et tout. She had to be au bureau avec elle. Et c'est pas forcément plaisant, mais qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je me souviens, et là, Caramel me le rappelait encore la dernière fois, elle me disait, oh, tu te souviens quand on était dans ton bureau et tu me mettais devant l'ordinateur avec un dessin animé pour pouvoir travailler et je mangeais des compotes. Yeah, I remember, because I had to do that, pour passer du temps avec toi. I remember, my dear. I do remember. Donc, le livre est super intéressant parce que il permet de voir le chemin de parentalité d'une dame très évoluée dans ce domaine-là, mais aussi de questionner son chemin de parentalité à soi. Moi, je suis partie de « je ne veux pas d'enfant » à « j'ai un enfant, je ne l'ai pas prévu, c'est vrai » à « je veux tout lâcher pour l'enfant » à « je ne lâche pas parce que finalement, en tant qu'individu, il est très important pour moi d'être moi-même et de pouvoir suivre mes pas. » C'est-à-dire que j'ai un enfant, oui, mais je ne disparais pas. C'est-à-dire, même dans tous ces aménagements que je fais aujourd'hui, j'ai repris l'école, par exemple. J'ai commencé les cours de piano. Il y a un piano derrière, là. À la base, c'était le cours de piano de Caramel. And then, après avoir lu Die with Zero, dont j'ai parlé ici, je me suis dit, I need to do everything that I always wanted to do, I have to do it. Parce que je remets à demain, mais demain j'aurai 120 ans, ou alors je serai déjà morte et je n'aurai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai pris des cours de piano. So I'm still living my life, but. Pourquoi est-ce que j'ai dit but en fait? Ce n'était pas un but que je voulais dire. Je voulais dire, je dois construire mon individualité tout en étant parent. Je fais tout ce qui est important pour que mon enfant se sente à 100% soutenu, qu'elle sente ma présence, que je sois là comme elle a besoin que je sois là. Parce que ça, c'est très important. Elle a besoin de ma présence physique. Donc, en plus de devoir apporter de l'argent, je fais l'effort pour que ma présence physique soit quelque chose qu'elle a au quotidien. And this one is not always easy de pouvoir plugger tout entre 8h30, quand je rentre de l'école, parce que j'accompagne le matin, entre 8h30 et 14h, c'est pas facile, but I do it. Et le soir, parfois, je travaille light pendant qu'elle tourne là et bavarde les coloris ou whatever. Je veux travailler light en étant avec elle. Ou alors, mais généralement, 14h, il faut que ce soit fini. Je le fais, ça c'est un extra, mais 14h, c'est fini. Donc oui, il est difficile d'être parent et de vouloir et d'avoir à travailler selon la manière dont le travail est conçu, c'est-à-dire un bureau, des collègues, des missions. C'est dur, et je peux vous dire que c'est vraiment un privilège pour moi de. Après, ça, c'est aussi parce que j'ai toujours, je dis c'est un privilège, oui, mais c'est pas tombé du ciel. Je n'ai jamais conçu le travail comme quelque chose où, comme j'ai dit, je dois grimper les échelons, je dois ci, je dois ça. Ce n'est jamais comme ça que j'ai conçu le travail. Je n'ai jamais vu la chose comme ça. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Il faut que la mission me parle. Il faut que l'humain soit au centre de ce que je fais. Et quand je parle d'humain, il faut que son évolution en tant qu'individu soit au centre de ce que je fais. Donc aujourd'hui, le fait d'accompagner des femmes, c'est vraiment en droite ligne avec ces missions-là que je me suis toujours données, que ce soit dans une organisation ou non. Donc, cette façon aussi de concevoir le travail qui est atypique a beaucoup aidé. On sait déjà écrire, donc vous donnez les dates. Donc, je disais, cette façon atypique de considérer le travail a beaucoup aidé parce que ça me permet de ne pas m'accrocher à une hiérarchie, à un titre, à une évolution professionnelle, because I really don't care about these things. I do not care. Donc, ça rend les choses un petit peu plus simples. Now, pour le livre, qu'est-ce que je dirais pour finir, parce qu'il faut bien que je termine à un moment donné. Le livre, personnellement, j'ai aimé le lire. Mais la vérité, c'est que, est-ce que je le recommande? Je dirais que ça dépend d'énormément de facteurs. Le premier facteur, c'est, si vous lisez le livre en attendant une continuation de la courte vidéo sur Internet, c'est peine perdue. Parce que les sujets qu'elle a abordés dans cette courte vidéo ne sont pas les sujets qu'elle aborde ici. Moi, quand je l'ai acheté, c'était vraiment en me disant que j'aurais la suite de horloge biologique, faire des enfants, travailler, les difficultés et tout et tout. Mais la vérité, c'est que this is not what you have in this book. Elle a bien dit, work, family and the future, and our future. Le livre se focalise beaucoup plus sur work. C'est-à-dire que si tu es une personne fascinée par l'évolution des entreprises, comment est-ce que ça se passe un rachat? Comment est-ce que tu fais pour intégrer de grandes boîtes? Oui, je recommande le livre. Mais si tu le lis parce que tu veux comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'elle a trouvé un équilibre entre parentalité et travail, c'est mort. She doesn't talk about that. Et tu me diras que c'est peut-être du Congo ça, mais j'aurais aussi aimé qu'elle parle des conflits avec son mari, parce que son mari aussi a beaucoup travaillé. Qu'est-ce que ça a créé dans leur relation comme tension? Comment est-ce qu'ils ont fait pour conserver le mariage, pour continuer de faire vivre l'amour, pour continuer d'être un couple, en fait, dans ce monde-là où elle était partie tout le temps, voyager tout le temps. Le mari s'était très pris. Il a lui aussi eu une très belle carrière. Comment est-ce qu'ils ont géré ça? We don't have a word about that. She just says, Raj said that in my priorities, he is very, very, very low in my list of priorities. That was all we had. Il y a beaucoup de choses qu'elle laisse deviner plus qu'elle n'en parle. Par contre, pour ce qui est du fonctionnement de PepsiCo, elle a tout dit. Je ne savais pas que PepsiCo était une entreprise. Je savais que c'était une grande entreprise, mais je n'avais pas compris toutes les ramifications. Et vraiment, tu le lis comme tu lirais un livre de business. That's the thing, actually. Donc, ce livre, je le recommanderais pour des femmes et des hommes d'ailleurs, parce que comme je dis, c'est un livre de business, et des hommes d'ailleurs qui sont beaucoup plus focalisés sur how do you make it in business and comment est-ce que tu pilotes un business de grande envergure pour qu'il explose, comment est-ce que tu crées une équipe de choc pour pallier à certaines crises et à certains besoins de ton entreprise. Quel est le jeu politique? Quels sont les rapports? En fait, comment est-ce que tu dois chercher des mentors? Quels sont ceux qui peuvent te mentorer quand tu as déjà un niveau aussi élevé? And how do you mentor people as well? C'est vraiment ce dont elle parle dans le livre. Family, c'est 4%, 5% du livre, mais c'est plus un livre de business. C'est pour ça que je disais que c'est à la fin que je dirais que si je recommande le livre ou pas. Le fait de le lire n'est pas une mauvaise chose, because the story is a very beautiful one. Juste toujours pour tout ce qui est, comment tu appelles ça, pour tout ce qui est acquisition de connaissances et d'informations. Ça, en termes d'informations sur PepsiCo et sur le monde corporate, c'est une pépite. C'est bien aussi de voir, quand elle en parle, vraiment de manière très brève, quels sont les problèmes familiaux qu'elle rencontre. Mais la fin, par contre, la fin, je trouve que la fin est faible. C'est la première fois que je fais une revue d'un livre que je ne recommande pas forcément. La fin est faible parce qu'à la fin, quand elle dit Our Future, elle parle de la place de la femme dans le monde corporate. Et je trouve que c'est un peu trop dilué, un peu trop politiquement correct et que elle aurait pu dire les choses comme elles sont. Et elle aurait pu certainement, ça c'est un jugement de, voilà, peut-être que c'est unfair, mais je pense qu'elle aurait pu faire aussi, elle aussi, un petit peu plus pour les femmes par rapport au poste où elle était. Je touche ma caméra parce que quand elle commence à chauffer, elle s'arrête. Donc je disais, elle aurait pu faire. C'était faible. Our Future, c'était faible. J'ai trouvé que c'était faible. Après, un livre se lit selon l'intention de l'auteur. Et ça, c'est Malcolm Gladwell, qui est un très grand auteur, qui m'a appris ça. J'ai regardé, j'ai suivi un de ses cours sur Masterclass, que je recommande d'ailleurs. Et il disait que quand on critique un livre, il faut s'assurer qu'on a compris l'intention de l'auteur. Donc, si on revient sur le titre, My Life in Full, Work, Family and Our Future, Work comes first. Donc, certainement qu'elle a rempli la mission qu'elle s'est donnée, c'est-à-dire parler du travail. Because that's what she did. Family, c'est dilué dans le travail. And our future, c'est tout à la fin. Vraiment, tout à la fin du livre. Tout à la fin. Je termine sur une anecdote qu'elle a partagée dans le livre et ça m'a rappelé mon histoire. Elle disait que quand elle a eu son deuxième enfant, anyway, elle venait d'accoucher. Elle était à l'hôpital. Elle avait accouché le matin même ou la veille. Elle était à l'hôpital. Et, pardon, son boss l'appelle pour lui dire qu'il y a un projet sur lequel on a urgentement besoin d'elle. Elle n'a qu'à se débrouiller pour venir travailler. Et elle lui dit, mais je viens d'accoucher. Et il lui répond, c'est pas ton cerveau qui a accouché, meuf. J'ai besoin de ton cerveau, là. J'ai pas besoin de ton corps entier, whatever. Je veux que tu fasses marcher la machine. Et c'est pour dire que, voyez comment ça peut être unfair. C'est-à-dire que le fait que la grossesse, et ça c'est vraiment tout un autre point, j'aimerais qu'on en parle, vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse tout un sujet dessus. Le fait que la grossesse soit un frein pour les femmes, mais que ce ne soit pas vu comme un frein par la société, c'est plus vu comme une faiblesse. Elle vient d'accoucher, le mec lui dit, dépêche-toi, j'ai besoin de toi. Et elle a travaillé, elle a fait venir son équipe chez elle pour pouvoir travailler sur le projet. Tous les jours, l'équipe est venue à la maison pour travailler sur le projet. Et ça me rappelle quand j'ai accouché, quand j'allais accoucher, j'étais sur la chaise roulante pour aller dans la salle d'accouchement et j'écrivais à mon équipe et je disais, je serai indisponible 1 heure ou 2, mais après je reviens. Personne ne savait que j'allais accoucher parce que consciemment ou inconsciemment, tu enregistres ça comme une indisponibilité et donc comme un manquement professionnel. Tu ne le vois pas. Parce que, en fait, c'est aussi comment c'est présenté. C'est présenté comme une faiblesse. On a besoin que tu sois là tout le temps. Et les hommes ont cet avantage-là où ils n'ont pas ce genre de stop au travail. Donc, pour pouvoir match leur niveau, you have to downgrade. C'est-à-dire que, pas downgrade, mais tu dois minimiser un petit peu ce par quoi tu passes pour pouvoir rester compétitive dans l'entreprise. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Et je me souviens quand je me suis fait poser mon stérilet après mon accouchement. Je venais d'avoir mon nouveau job et je vous jure que je me suis fait poser mon stérilet. J'étais en meeting. J'étais sur un meeting sur Teams, sur le téléphone. Et je peux vous assurer que poser un stérilet, ça fait mal. But I was like, oui, je comprends très bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce serait bien qu'on aille de ce côté-là. Oui, c'est comme ça que je me suis posé mon stérilet. Et aujourd'hui, je me dis, but that's madness. Mais c'est du genre, c'est quelque chose de totalement inconscient. À ce moment-là, tu ne réfléchis pas à ça, en fait. Tu n'y penses pas. Tu te dis juste, il ne faut pas qu'on me voie comme quelqu'un de pas assez compétent, quelqu'un de pas assez présent, quelqu'un qui n'a pas la capacité de faire ce qu'il faut. So, yeah. Parentalité et travail, c'est un vaste sujet. Je pense que j'ai abordé la chose de manière transversale aujourd'hui, sans aller forcément dans les détails. En plus, ça fait très longtemps que je ne parle de parentalité. So, je voulais vraiment c'est-à-dire que planter le décor une fois de plus pour que vous puissiez me dire de tout ce que j'ai pu dire, sur quoi est-ce que vous voulez que je fasse un focus, parce qu'on a parlé d'énormément de choses. Sur quoi est-ce que vous voulez que je fasse un focus? Ça peut être plusieurs choses à la fois, hein. Ça nous fera plusieurs épisodes, that's all. Because je pense que, vous me donnerez votre avis, hein, mais je pense que ces derniers temps, mon contenu a été un peu dilué, dans la mesure où, peut-être par rapport à mon travail, à tout ce que je mettais en place, je me suis un peu... Perdu n'est pas le mot parce que j'ai continué de proposer un contenu utile, mais je pense qu'il était un peu moins relatable sur beaucoup de plans. Voilà, j'ai besoin de me retrouver dans mon contenu. So, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour que je puisse créer du contenu autour et qu'on soit tous alignés et satisfaits et surtout que ce soit des sujets qui nous touchent directement. Mais alors, directement. En parlant de sujets qui nous touchent directement, là, je suis en train de terminer le livre, un livre sur la sexualité dans le couple, le fait que la sexualité dans le couple, je me dirai pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui. Anyway, c'est ce que j'ai lu en ce moment. Ça a été écrit par un sexologue et le titre c'est S'épanouir. Je voulais vous le montrer, mais il est sur mon bureau de l'autre côté, donc je n'ai pas envie de me lever et de revenir. Mais ce serait bien qu'on aborde ce genre de sujet, des sujets qui ne sont tout simplement pas abordés, ou alors qui le sont, mais de manière policée, comme c'est le cas avec ce livre-là, quand je parlais de Our Future, comment elle a policé la chose. Je voudrais qu'on puisse se dire des choses crues comme on l'a toujours fait. Je voudrais qu'on puisse se dire des choses vraies. Et c'est pour ça que je suis sur Internet, en fait, pour pouvoir partager des choses crues, des choses vraies. Vous me direz que ces derniers temps, c'était un peu plus du politiquement correct. Pourquoi d'ailleurs? I don't know. But I think I'm done with it. Yeah. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos réactions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez sur YouTube. J'ai posé des questions, répondez-y. Dites-moi ce que vous avez aimé dans l'épisode, ce que vous aurez préféré que je n'aborde peut-être pas. Ou alors, ce que vous voulez me voir aborder plus souvent, tell me. Si vous êtes sur Spotify, vous avez également la possibilité de commenter. So, n'hésitez pas. That's why we are here. Apple Podcasts, Spotify, abonnez-vous au podcast, laissez une revue, ça c'est très important pour moi, laissez une revue. Et puis, surtout, mais abonnez-vous en fait, parce que comment ça se fait que autant de gens qui écoutent le podcast et qui le regardent sur YouTube et qui l'écoutent sur Spotify ou Apple Podcasts ne sont pas abonnés? That's something that I don't understand. Donc, abonnez-vous, ça me donne la force et ça me permet de savoir que ce que je fais sens, tant pour moi que pour vous. And it's important. Bon, là, je vais accélérer parce que je dois partir dans 10 minutes pour chercher Caramel. Donc, je vais accélérer ceci. Je pense que j'ai fait le tour ici. Donc, people, bye. One, two.